Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les États-Unis d'Amérique annoncent avoir reçu un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Confirmation via son compte X du conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, Massad Boulos. Ce projet d'accord de paix constitue une étape importante ouvrant la voie à une désescalade entre les deux pays. Depuis avril dernier, 24 cas positifs, dont un décès dû à l'épidémie de la peste bubonique et pulmonaire, ont été enregistrés dans la zone de santé de Réti, territoire de Djougou en Ituri. Chiffre donné hier par le médecin coordonnateur du Centre de surveillance et des luttes contre la peste en RDC. Steve Sengida, le coordonnateur du projet Star Est en Ituri, est notre invité. Il va revenir sur les travaux de construction de plusieurs ouvrages et infrastructures communautaires dans le cadre du projet Star Est à Songolo, à une trentaine de kilomètres de Bunia, un projet financé par la Banque mondiale. Bonjour à tous, au micro Noëlla Luzitu Kabambi. Va-t-on vers la paix dans l'est de la RDC? Les États-Unis d'Amérique confirment avoir reçu un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Annonce faite hier via son compte X par le conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, Massad Boulos. Une étape importante qui ouvre la voie à une désescalade entre les deux pays. Les détails dans ce condensé de Martial Papimukeba.
C'est sur ce compte X, anciennement Twitter, que Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, a confirmé avoir ici un projet d'accord de paix de la part de la RDC et du Rwanda. Il a écrit, je cite, « Je salue les projets de propositions de paix récits de la RDC et du Rwanda. Il parle d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration des principes et affirme compter sur leur engagement continu en faveur de la paix. De son côté, le ministre rwandais Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a confirmé au média public Rwanda Broadcasting Agency que les deux pays ont effectivement remis leurs propositions aux États-Unis. Il a précisé qu'une rencontre est prévue dans les trois semaines à venir entre lui et son homologue congolaise en fait de finaliser les textes de l'accord après le travail des experts des deux pays. Selon lui, l'accord de paix devait être signé à la Maison Blanche d'ici la mi-juin par le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. En présence de leur homologue américain Donald Trump. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Ici au pays, en plus bref, une accalmie relative est signalée ce mardi à Kabizo, Rushege et Businene, dans la région de Tongo, après des affrontements intenses depuis quelques jours opposant le 1-23 au Wazalendo dans la zone. Les populations qui avaient fui les affrontements ont regagné leur domicile, n'ayant pu trouver refuge nulle part ailleurs à cause de l'instabilité de la région. Nos sources affirme qu'il n'y a pas encore eu d'affrontement depuis ce matin, mais les rebelles seraient en train de traquer leurs ennemis dans les villages environnant Kabizo, toujours dans la chefferie de Bwito. Cette zone connaît une forte présence des Wazalendo qui occupent plusieurs entités, ce qui justifie la récurrence des affrontements entre les deux parties, ajoutent nos sources. Toujours au Nord Kivu, 4 personnes sont mortes et plusieurs autres grièvement blessées dans l'explosion d'une roquette hier lundi dans la cité de Bambo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Les sources locales renseignent que l'incident s'est produit au petit marché de Bambo Centre vers 16h. Un combattant Muzalendo qui détenait cette arme l'aurait manipulé par inadvertance et provoqué une explosion. 3 personnes, dont 2 femmes et un jeune enfant, ont trouvé la mort sur le coup, tandis que la 3e victime a succombé à ses blessures ce mardi matin à l'hôpital, affirme notre source. Outre les civils, 2 Wazalendo, dont le porteur de l'arme, ont également été blessés par l'explosion. Ce genre d'incidents sont récurrents dans la région à cause de la présence d'hommes armés, déplore un notable du coin. Au sud Kivu voisin, les agglomérations de Katogota et Kamanyola, situées entre les territoires d'Uvira et de Walungu, sont plongées dans une spirale de violence depuis hier. Jusque ce matin, de violents combats opposent les combattants de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo. Rachel Kessé.
C'est la première fois que les Wazalendo lancent en premier une attaque surprise sur plusieurs positions avancées de l'AFC M23. Des témoins dans la région constatent la progression des Wazalendo de Katogota en direction de Kamanyola. Les collines de Rutebe, Kayange et Luzindi étaient le théâtre des affrontements qui ont duré 8 heures de temps. Aucun mouvement ni activité n'a eu lieu, tout le monde préférant se mettre à l'abri à l'intérieur de sa maison durant toute la journée. Nos sources rapportent que des blessés ont été enregistrés parmi les populations civiles. Les parties en conflit ont connu des pertes en hommes, révèle un activiste de droits de l'homme dans la plaine de la Ruzizi. La tension demeure tendue ce mardi, chaque camp déclare maintenir la suprématie de l'autre. Des renforts en hommes et en munitions sont visibles tant du côté de rebelles que du côté des Wazalindo.
24 cas positifs et un décès, c'est le dernier bilan de l'épidémie de la peste bubonique et pulmonaire qui sévit depuis avril dernier dans la zone de santé de Réti, dans le territoire de Djougou en Ituri. Ce chiffre a été communiqué lundi par le médecin coordonnateur du Centre de surveillance et des luttes contre la peste en RDC. Docteur Lossa indique que les efforts des partenaires, dont l'ONG internationale Malteser, ont permis de limiter la propagation de cette maladie. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
3 aires de santé sur 22 sont affectées par cette maladie qui se transmet par les rats et le puce. Il s'agit de Lokba, Kopa, Bandroma et Réti. Sur 24 cas enregistrés, un enfant de 13 ans sévèrement atteint de la maladie est décédé le mois dernier. D'après le médecin responsable de ce programme, la jeune fille a été acheminée tardivement à l'hôpital alors que la germe de la maladie avait déjà envahi tout son corps. Le docteur Gustave Lossa rappelle que le malade peut recouvrer sa santé à condition que la prise en charge soit rapide, d'où sa recommandation.
Il faut que les milieux soient sains pour éloigner le plus possible les rats qui sont les réservoirs. Ce sont plus les puces qui transmettent la maladie pour le moment. Il y a des signes qui s'annoncent. Dès qu'il y a ces signes-là, à ce moment-là, on vous prend en charge et vous êtes guéri. C'est dangereux pour toucher le corps du malade parce que quand vous touchez le corps du malade, surtout quand ce sont des décès, vous avez beaucoup de risques de vous contaminer directement. Avec les corps qu'on déplace, à ce moment-là, il y a les germes qui se multiplient et les risques de se contaminer augmentent.
Malteser International et MEDER restent les deux organisations humanitaires qui assurent le ravitaillement des médicaments et la prise en charge des malades dans cette zone où la peste est endémique, selon les autorités sanitaires. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Capi.
Toujours en santé, la province du Kassai Oriental n'a pas connu d'épidémie de rougeole l'année dernière. Pourtant, cette année 2025, la province a enregistré des cas isolés. Le médecin chargé de la maladie au Kassai Oriental justifie cette situation par des mesures préventives mises en place. Docteur Jean-Pierre Soumba s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Vous le savez que c'est une maladie qui nous fait très mal au niveau de la province et que c'est une maladie que quand ça arrive, ça nous prend beaucoup d'enfants. Mais heureusement pour l'année qui s'est écoulée, la province du Kassai Oriental n'a pas connu cette épidémie. C'est parce que normalement, il y a la surveillance qui marche au niveau de la province. On est presque sur tout cas qui est en fait déclaré au niveau de la province pour les investigations, pour l'analyse et pour la prise en charge des cas tout autour. Ce qui fait que nous avons été protégés et nous n'avons pas connu de cas de rougeole comme épidémie au niveau de la province du Kassai Oriental. Nous avons misé beaucoup plus sur la prévention. La prévention consiste d'abord à la vaccination de tous les enfants. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons des stratégies qui font que dès qu'il y a une suspicion d'un cas parlant de rougeole, on ne reste pas main croisée. Le cas est investigué d'abord par la zone de santé qui l'a rapporté et même le prélèvement réalisé pour envoyer à Kinshasa et avoir des confirmations sur ces cas. Dans l'entretemps, l'équipe est sur place pour voir est-ce qu'il y a deux cas qui présenteraient des signes analogues et on prend en charge tous ces cas-là pour éviter que la maladie ne puisse avoir une ampleur assez grave au niveau de la province.
Le monde a célébré hier 5 mai la journée internationale des sages-femmes. Malgré cette appellation, notez qu'il existe aussi des hommes parmi les sages-femmes. Florence Kiza nous peint le portrait de l'un d'entre eux, Ramazan Imaneo, c'est son nom. Il est le chef d'unité fonctionnelle à la maternité du centre de santé RVA à Kindu, province du Maniema. Il nous parle des temps forts de son métier, des difficultés qu'il rencontre, mais aussi le regard qu'a la communauté par rapport à cette profession que beaucoup pensent être réservée uniquement aux femmes. Suivez.
Ramazan Imaoneo est marié et père de 5 enfants. Au début de son métier, il lui a fallu plusieurs sensibilisations pour qu'il soit accepté par les femmes.
Tout au début, les femmes n'acceptaient pas facilement que je puisse diriger leur accouchement. Mais après avoir fait plusieurs sensibilisations, elles commencent maintenant à accepter facilement. Même si je suis à la maison, elles commencent à m'appeler.
Après qu'il soit accepté par les femmes, ce sont le mari de ces femmes qui constitue encore un obstacle à son métier.
Parfois, il y a certains maris qui ne veulent pas que sa femme puisse être accouchée par un homme. Il y a les autres que nous avons des relations de fraternité quelque part. Ils ne veulent pas vraiment que nous puissions diriger leur accouchement.
Ramazani Maoneo encourage les autres hommes à la profession sage-femme.
J'invite même les autres hommes comme moi de venir à la profession sage-femme pour que nous puissions aider nos femmes, pour que leur accouchement passe bien. Ce n'est pas une profession unique pour les femmes, c'est pour tout le monde.
Signalons que Ramazani Maoneo est le seul homme sage-femme dans cette structure sanitaire. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
La route nationale numéro 1 risque de se couper en pleine ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Les eaux des pluies qui stagnent sur le pont du kilomètre 273 ont provoqué une profonde érosion à côté, augmentant ainsi les risques d'accidents, de renversements ainsi que des stationnements intempestifs des véhicules. Le maire de Kenge, Noël Kuketuka, qui alerte, plaide pour une reprise complète et rapide des travaux par l'Office des routes. Irène Bomaluzolo.
D'après le maire de la ville de Kenge, la situation est alarmante sur la route nationale numéro 1, précisément au niveau du pont kilométrique 273, situé au quartier Kikwit, en plein chef-lieu du Kwango. Dans un entretien lundi avec Radio Okapi, il ajoute qu'ici, les eaux des pluies stagnantes et non évacuées, la boue ainsi que des nids de poules augmentent les risques d'accidents. Noël Kuketuka.
Faute de curage par l'office des routes, les bassins a cédé et a donné une érosion. La route sera inutilisable. Il y a aussi risque d'être renversement dans l'eau, les véhicules. Ça va se renverser.
Pour cette autorité urbaine, la persistance de cette situation risque de bloquer complètement la circulation sur cet axe routier. Noël Kuketuka plaide pour la relance des travaux d'entretien.
Il fallait qu'on puisse endiguer l'eau de ruissellement pour qu'il ne puisse pas accélérer l'avancement de l'érosion. Si jamais on accélérait les travaux, il y aura des pannes.
Signalons que la route nationale numéro 1 est d'importance socio-économique très capitale car elle facilite la circulation des paisibles citoyens et permet les échanges commerciaux entre Kinshasa et les provinces du Kwilu, du Kwango, Kasai et autres. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et dans la province du Tanganyika, c'est l'effondrement du pont Kala sur l'axe Kirungu-Mwanza dans le territoire de Moba qui est signalé. Dans une déclaration ce mardi à Radio Okapi, le Parlement des jeunes de Moba annonce que pour le moment, il est difficile d'acheminer les produits vivriers par camion à Moba Centre. Il demande aux autorités ONG de réhabiliter l'ancien pont ou encore de construire en urgence un autre. Justin Katwamba, président du Parlement des jeunes de Moba, revient sur l'importance du pont Kala. Ses propos sont recueillis par Paula Munanga.
Ce pont stratégique sur la route numéro 34, qui est l'axe qui part de Kirungu-Mwanza jusqu'au village Kitu où la route fait jonction à la nationale numéro 5, donnant lieu aux deux axes, dont celui qui mène vers Kalemie et Pweto. Il est situé à environ 25 km de Moba Centre et de quelques mètres du village Kala. Il est jeté sous la rivière Kala, assurant ainsi la liaison entre plusieurs villages agricoles et les centres du territoire. Son entrecoupement plonge la population dans une crise d'approvisionnement et de communication. Les produits vivriers ne peuvent plus être acheminés par camion de cet axe jusqu'au Moba Centre. Les manques criants de connexion de la majorité d'espaces agricoles de Moba en passant par ce pont est à signaler. Les motos s'efforcent de passer avec difficulté. Cet état médiocre dénote des conséquences néfastes sur les socio-économiques des habitants de la cité de Moba. Ce pont est d'une importance capitale qui représente un lien vital pour la survie économique et sociale de notre communauté. Il est donc urgent d'agir pour éviter une détérioration humanitaire.
Parlons sport à présent. En football, les Léopards de moins de 20 ans de la RDC sont tout proches d'une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2025. Les jeunes Congolais dominent actuellement le groupe C avec 4 points grâce à leur victoire 3-1 face aux fauves de Ba-Ubangi de la République centrafricaine hier lors de la deuxième journée de la phase des groupes. Prochaine étape cruciale pour les Congolais, c'est le choc contre le Sénégal prévu ce jeudi 8 mai à Suez. En cas de victoire, la RDC validera son ticket pour le second tour de la compétition.
Actualité internationale.
Des drones ont bombardé l'aéroport et une base militaire de Port-Soudan ce mardi matin, au troisième jour des frappes dans cette ville de l'est du Soudan, abritant le siège provisoire du gouvernement en guerre contre les paramilitaires. Des centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge dans ce port sur la mer Rouge, devenu la porte d'entrée de l'aide humanitaire dans le pays où la famine sévit dans plusieurs régions. Le gouvernement soudanais accuse les Émirats arabes unis de soutenir les FSR en leur fournissant notamment des drones, ce qu'Abu Dhabi nie. Lundi, la Cour internationale de justice a rejeté une plainte du Soudan accusant les Émirats de complicité de génocide, se déclarant manifestement incompétente pour statuer sur cette affaire.
L'invité.
Le vice-gouverneur de l'Ituri a lancé le vendredi 2 mai dernier à Songolo, à une trentaine de kilomètres de Bunia, les travaux de construction de plusieurs ouvrages et infrastructures communautaires dans le cadre du projet Star-Est, un projet financé par la Banque mondiale à hauteur d'environ 250 millions de dollars américains pour les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. À quoi vont servir ces fonds pour l'Ituri? Avec quelle garantie de transparence pour s'assurer que les fonds alloués aux différents projets servent réellement à la réalisation des projets ciblés en faveur des communautés locales? Pour en parler, Jean-Claude Lou qui reçoit Steve Senghida, il est le coordonnateur du projet Star-Est en Ituri. Suivez.
Steve Senghida, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Un peu de mots d'abord sur le plan pédagogique. Que signifie Star-Est?
En fait, le Star-Est est un projet du gouvernement congolais, issu du mariage entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale, qui a permis aux trois provinces de l'Est de bénéficier d'un appui financier, lequel appui est destiné à soutenir les efforts de ces provinces à pouvoir poursuivre l'élan de stabilisation et de relèvement de leur communauté, longtemps meurtrie par les multiples conflits armés, l'activisme de groupes armés, mais aussi la présence de rebelles étrangers, de groupes terroristes qui sévissent dans ces provinces-là, le Nord, les Sud Kivu et l'Ituri.
Steve Senghida, on nous parle d'un chiffre pharaonique de 250 millions de dollars américains pour les trois provinces. Donc, vous confirmez ces chiffres?
Oui, je confirme. Le projet bénéficie d'un financement de plus ou moins 250 millions, mais nous venons d'avoir une rallonge qui va devoir permettre au projet Star-Est d'organiser et de financer la prévention et la prise en charge holistique des violences sexuelles basées sur les genres.
On peut penser peut-être qu'avec ce montant, c'est quand même beaucoup. Pour avoir, par exemple, des centrales hydroélectriques, pourquoi, par exemple, ne pas construire des routes, par exemple, asphalter les routes? Est-ce que ce montant, c'est seulement par rapport à la guerre?
Les trois provinces de l'Est font face à des défis énormes de stabilisation. Vous avez les écoles, les centres de santé détruits. Vous avez l'enclavement de plusieurs villages, faute de mobilité, des routes locales pouvant relier les centres de production et des consommations et bien d'autres. Vous avez la problématique de la pauvreté. Les personnes sont dépourvues de leur potentiel économique. Vous avez toutes ces personnes déplacées. Vous avez les retournés qui doivent bénéficier d'un débit pour leur permettre de pouvoir recommencer cette vie qu'elles ont perdue. Donc la problématique est partie de la situation de vulnérabilité de la population pour justifier l'obtention de ces financements, et les fonds est spécifiquement dédié aux communautés vulnérables. Le projet Star-Est va pouvoir s'épanouir dans tous les groupements, sans exception, de quatre territoires de la province de l'Ituri et ces deux provinces du Nord Kivu.
Souvent, il se pose des problèmes de gestion, des mégestions, des commissions, rétrocommissions. Qu'est-ce qui est mis en place comme mécanisme pour le suivi? Parce que c'est ce qui fâche souvent.
Et nous ne finançons pas les entreprises en déversant la totalité des fonds. Nous partons progressivement de par les rapports que nos équipes de supervision font sur terrain. Quand l'ingénieur nous dit que nous pouvons financer parce que la fondation a pris fin, nous pouvons verser la compte couvrant la fondation, nous le faisons. Quand ils font l'élévation certifiée par nos experts, nous sommes en mesure de décaisser la tranche suivante. Mais nous savons que l'entreprise verse une garantie qui nous permet de nous assurer qu'elle dispose d'une capacité financière pouvant lui permettre de déclencher la mise en œuvre du projet, et les fonds de garantie restent chez nous. Donc, le mécanisme est mis en place en telle sorte qu'une entreprise ne peut pas s'envoler avec l'argent du projet.
Vous ciblez, Steve Senghida, deux territoires qui sont encore en conflit, armés presque, si on peut le dire ainsi, notamment Djougou. Vous ne craignez pas que, voilà, que ce soit de l'argent perdu comme ça?
Nous allons vers des communautés qui ont exprimé des besoins que vous ne pouvez pas imaginer.
Mais...
les mêmes zones couvertes par les groupes armés, ces gens ont des épouses, ont des enfants. Ils tombent malades. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin que leurs enfants aillent à l'école.
Bien sûr, mais vous ne croyez pas justement en cas de violence que tous ces bâtiments, toutes ces écoles...
Les opportunités que nous amenons découragent effectivement l'élan de recrutement de jeunes dans les groupes armés. Aujourd'hui, nous allons prendre en compte les ex-combattants comme main-d'œuvre dans tous les projets que nous allons développer.
Mais vous ne prenez pas les chefs, hein, c'est ça?
Non, nous prenons les ex-combattants parce qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de revenus.
Mais les chefs, apparemment, avec tous ceux qui gèrent dans la zone, est-ce qu'ils vont envier ou aller toucher $100, $200? Pourtant, ils gèrent des carrés miniers.
Non, mais les leaders ne payent pas de salaire aux groupes armés. Ils vivent de la raquette, ils vivent du vol. Ils ont besoin que leurs enfants aillent à l'école, ils ont besoin de faire des projets. Nous avons été dans des communautés où la population nous dit « Pourquoi vous nous laissez dans ces conditions-ci ? Vous pouvez venir ici la nuit, la journée, comme vous voulez, pourvu que nous bénéficions de ces opportunités. » C'est ce message fort qui démontre que même les acteurs de groupes armés sont favorables au développement dans les milliers.
Steve Senghida, je vous dis merci.
Je vous en prie.
Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal mis en onde des mains de maître par Debs et Vita, un journal coordonné par Élisée Tchikotaï, supervisé par Martin Sebujangwe. À la présentation, c'était Noéla Luzitu Kabambi. Je vous laisse en compagnie des autres programmes de Radio Okapi, le média de la paix.